Il est 16h. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campusille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Comme chaque mercredi avec vous, de 16h à 18h le mercredi, même pendant les vacances, René Lavergne, pour cette émission qui s'appelle « Quoi de neuf ?». Une émission aujourd'hui qui va vous emmener dans des univers autour de l'image, du son, du design dans les Hauts-de-France. Et tout d'abord, une nouveauté, j'allais dire une évolution tout au moins, et bien des entreprises qui sont regroupées autour de la pleine image de Tourcoing, des entreprises des industries culturelles et créatives, et qui sont associées dans le cadre d'un groupement d'intérêt public. Voilà, ça se nomme Eura Créative, comme il y a Eura Santé, Eura Technologie. Bien sûr, la MEL, la Métropole Européenne de Lille, est derrière ou soutient ces projets, un engagement donc garanti, hein, d'après ce qu'on a dit. Le vice-président que vous allez retrouver lors de la cérémonie d'ouverture. Voilà, on va écouter cette séquence avec des discours, etc. Donc c'est le début des discours que je vais vous présenter. Ça se passe à la pleine image qui est devenue Eura Créative, et c'est le vice-président, donc, qui s'appelle Bernard Heusbroek, qui va faire le démarrage un petit peu après l'introduction de l'animateur.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer un moment important, celui de la naissance d'Eura Créative. C'est un moment important pour toutes celles et ceux qui œuvrent depuis un peu plus d'un an maintenant, et je les en remercie vraiment, à la création de ce nouvel Eura, dédié, comme son nom l'indique, aux industries culturelles et créatives. Cette célébration, nous l'avons voulu créative et conviviale, mettant en avant les talents de notre territoire. Et quoi de mieux pour cela que de découvrir ou de redécouvrir quelques success stories des industries culturelles et créatives de la métropole européenne de Lille.
Peu à peu, on a vu un écosystème se créer dans la région.
Ce côté entrepreneur, industriel, voire en grand, je trouve que c'est quelque chose qui caractérise bien Lille. Il y a un écosystème assez puissant.
Mais la chose qui nous a quand même fédérés, c'est l'image. On vient tous de l'image et on a tous cette envie de faire des choses dont on sera fier, en fait, dont on a envie de montrer.
Je connais pas beaucoup d'autres régions en France qui ont cet écosystème autour de la musique tech.
Quand on se balade, on a envie de créer, on a envie de participer, et que ça continue comme ça et que ce soit même encore plus grand, plus beau. C'est une aventure qu'on a démarrée ici à Lille il y a plus de 20 ans. On est à peu près une centaine de personnes. On fait un peu plus de 30 millions de chiffre d'affaires avec un prisme très international.
Je dirige une société qui s'appelle Music Story, qui est dédiée à l'enrichissement des métadonnées de musique, qui travaille beaucoup à l'international pour des plateformes de streaming comme Qobuz, Deezer, Apple, qui fait aujourd'hui 80% de son chiffre d'affaires à l'export sur cette activité.
Moi, je suis très fier d'avoir mon siège à Tourcoing et je pense qu'on a ce côté humilité dans le Nord où on reste caché et de montrer et d'affirmer qu'on a une volonté à aller sur ces entreprises créatives, culturelles. Je pense qu'aujourd'hui, on est très, très bon. Donc, il faut absolument le communiquer et je suis très fier de rejoindre ce collectif.
que ce soit en recrutement ou quand des Parisiens ou autres viennent, notamment sur la pleine image, qui voient les entreprises, qui voient le cadre de travail, bah, tout de suite c'est « Ah ouais, c'est chouette en fait !»
Et nous, là où on est très fiers, c'est d'avoir participé, d'avoir été les premiers à arriver, d'y avoir cru, et puis après d'avoir vu pousser toutes ces entreprises les unes après les autres. Ça redynamise à fond, et puis on a des gens qui sont très bons. Voilà, on a des entreprises qui ont explosé ici.
Et à ce moment-là, on a commencé à rêver et à se dire « Peut-être que c'est possible, la boîte va grossir x3, x4, x5, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. »
Alexis De Villers, le fondateur du groupe Live, qu'on a créé il y a 30 ans. Aujourd'hui, le groupe Live, c'est plus de 600 collaborateurs et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait plus de 10 000 prestations par an, de la petite réunion CODIR 10 personnes jusqu'à un Stade de France rempli.
On travaille dans le domaine du jeu vidéo, de l'animation, de l'édition de bandes dessinées, digitales et papier. On teste beaucoup de choses, on s'amuse. Une fois tous les 10 projets, on a une belle surprise.
52 Entertainment, c'est une entreprise qui crée des jeux mobiles à destination d'un public très très large. Aujourd'hui, on a à peu près 300 dans l'entreprise. L'année dernière, on a dépassé la centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui était une sorte de palier pour nous. Et on rayonne à l'international, donc on est français avant tout, mais très international.
C'est grâce à Pleine Image qu'on a rencontré Bliss, qui vont amener du traitement audio, chose qu'on ne savait pas forcément faire, et avec beaucoup de talent, en fait, propulser le produit encore plus loin. Et donc, effectivement, il y a des petites pépites qui sortent de l'écosystème.
Moi, ce que j'ai trouvé à Pleine Image, surtout, c'est plein de gens, en fait. C'est partager des amitiés, c'est partager des aventures entrepreneuriales, c'est se rendre compte que les gens ont les mêmes problèmes que nous, donc on se sent moins seul. C'est tous ces petits trucs qui sont finalement pas du business, mais qui sont quand même du business, parce qu'au final, ça crée une espèce d'ensemble cohérent d'entrepreneurs qui s'entraident même s'ils n'ont pas l'impression de s'entraider. Petit Bambou, c'est une application de méditation et de respiration. Aujourd'hui, elle compte presque 12 millions d'utilisateurs, 7 millions de Français, ce qui représente quand même 10% de la population française, ce qui pour moi est vertigineux, mais je suis ravi. Donc en fait, se faire un collectif de grosso modo une centaine de personnes.
Développer des compétences, développer des produits qui nous permettent d'être compétitifs sur un marché par le biais de l'innovation, de la recherche et du développement, c'est ce qu'on sait faire de mieux et c'est ce qu'a été le moteur. Je suis directeur de l'édition chez Nacon. Nacon, c'est une filiale du groupe Big Ben. Ce sont deux sociétés qui sont toutes les deux cotées. 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe Big Ben, 170 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la société Nacon, environ 1300 salariés. Nous sommes présents dans tous les pays du monde où existe un marché du jeu vidéo, que ce soit sur l'accessoire ou que ce soit sur le bien culturel qu'est le jeu vidéo en lui-même.
On est reconnu par nos pairs français parce qu'on a été élu meilleur producteur de l'année en 2023 pour l'audiovisuel. Et on est reconnu par nos pairs étrangers parce que voilà, on nous propose, on vient nous chercher.
Ça va beaucoup plus loin que la région. Pleine Image ou Récréatif s'est connecté à plein d'acteurs internationaux qu'on connaît.
Bienvenue à CAC. CAC, c'est avant tout des rencontres. Et des rencontres d'auteurs, des rencontres de projets et des rencontres, je dirais, d'images. Et donc, du coup, on est vraiment sur toutes les activités d'animation. On est beaucoup sur l'hybridation, on est beaucoup sur la 2D, 3D dans les décors depuis très longtemps.
Pour nous, le pivot de l'entreprise s'est fait à un moment qui était le moment des confinements. Nos jeux étaient vraiment exposés, vraiment très fortement, mondialement, à une audience énorme. Et en fait, on a senti, à un moment donné, que le trafic était tel. Tous les jours, on se demandait si la plateforme allait tomber. Et chaque jour, en fait, on trouvait des solutions, des bricolages. Voilà, on essayait de faire que chaque jour, on arrive à tenir une journée de plus. Et c'est là qu'on sentait que ça commençait à prendre et que le trafic devenait exponentiel.
On a pu signer une sous-licence avec Sony Music à l'international. Ça, ça a été vraiment un step qui nous a fait arriver. On se dit, bon, OK, là, maintenant, j'ai un deal avec ce type d'acteur. Voilà, on est présent.
On avait écrit en 2009, je crois, avec les équipes. On était parti sur des ambitions possibles et on se projetait en 2025. Et on avait écrit, on fera les JO. On ne savait pas que les JO étaient à Paris. Ça s'est fait à Paris et on les a fait parce que l'année dernière, ça a été pour nous, juillet-août, deux mois exceptionnels où on a eu plus de 2000 collaborateurs qui ont bossé sur les JO et une vraie réussite collective.
Les premiers joueurs sur Dofus, quand on est monté à 100, on était super contents. On est arrivé à 1000, on dit on est champion du monde. Puis à un moment, on est arrivé et on a eu 10 000, 100 000 joueurs en simultané. Il y a eu des étapes à chaque fois comme ça qui étaient juste extraordinaires. Et même en tant que juste créatif, je ne parle même pas de l'aspect chiffres.
Je voyageais au Costa Rica, c'était une soirée côté Caraïbes, etc. Et je me rends compte qu'en fait, ils utilisent Carafun. C'est quand même une fierté de se rendre compte que ce petit produit qui a démarré il y a 20 ans et qui n'était pas grand-chose est devenu vraiment... ce produit, cette marque.
On va sortir un jeu au mois de septembre qui s'appelle Hell Is Us, qui est le jeu de l'histoire de l'entreprise, qui rencontre l'écho sur le marché le plus important que nous ayons jamais rencontré. Donc j'espère qu'on marquera l'histoire et de la région et un peu de l'industrie, modestement, par le biais de ce produit.
Je vous remercie d'accueillir Bernard Hasbrouck, vice-président de la Métropole européenne de Lille. Là, Bernard, tout d'abord, merci d'être avec nous ce soir pour célébrer la naissance d'Aura Créative. Nous venons d'entendre témoigner des success stories de la filière, de notre territoire. Qu'est-ce que cela t'inspire ?
Je dirais... Alors, je vais commencer quand même par le protocole. Je suis là parce que je représente évidemment la communauté avec l'ensemble de mes collègues élus que je salue. D'ailleurs, je salue tous les élus présents, comme les chefs d'entreprise, comme les collaborateurs. Enfin, voilà, vous êtes nombreux et ça montre l'importance de cet événement. Je dois excuser Damien Castelin, qui aurait évidemment aimé être présent, mais qui est retenu par d'autres obligations et qui donc m'a demandé de le supplier, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Voilà. Pour répondre à ta question, je dirais que mon premier ressenti, c'est la fierté. La fierté d'être dans cette métropole, avec ses talents, avec ses créateurs, avec ses chefs d'entreprise audacieux, avec ses investisseurs, qui finalement croient en la métropole et surtout constitue les forces de cet écosystème. C'est vrai, ça a été dit d'ailleurs par un certain nombre de nos leaders, c'est vrai que nous avons la chance, et c'est une démonstration, d'avoir un écosystème aussi dynamique, aussi entreprenant, et aussi en réussite et en développement. Voilà le premier ressenti. Ensuite, on a des entreprises, et ce n'est pas un hasard que nous sommes un écosystème dynamique. Parce que, bien sûr, on a nos leaders, ceux qui sont en haut de l'affiche, mais on a une myriade de start-up, de pépites. Et cet écosystème, il produit la création continue d'une dynamique d'entreprise. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi parmi nos lettres de noblesse. Et donc, pas étonnant dès lors qu'on a déjà 700 entreprises, l'équivalent de 6000 emplois, un peu plus d'ailleurs maintenant. Et c'est aussi une démonstration de force qui fait que nous comptons au niveau national, nous comptons évidemment à l'international et nous voulons continuer au niveau européen et au niveau mondial. Voilà, je pense que...
Et alors, tu parlais du niveau national L'État, depuis à peu près 4 ans, a mis un coup de projecteur sur les ICC via le plan France 2030. C'est super. Mais bon, ici, sur le territoire, et puis toi, tu as un rôle très particulier que tu as pu jouer aussi déjà à l'époque. Ça fait une quinzaine d'années que la métropole a choisi la filière industrie culturelle et créative comme une filière majeure et prioritaire.
Bien sûr. Nous sommes une terre de création, mais aussi d'investissement et aussi d'audace. Et c'est vrai que nous avons un terreau et une histoire très favorable, puisque, bien sûr, nous sommes une terre de textile, de retail, et nous avons la chance d'avoir des chefs d'entreprise audacieux, mais qui sont créatifs. Et cette créativité, bien sûr, s'accommode très bien de l'industrie. Et donc, évidemment, c'est pas étonnant d'ailleurs qu'en 1889, s'est créée la première école des arts et de l'industrie, l'ESAT, l'École supérieure des arts appliqués textiles, qui fait d'abord l'honneur de la ville de Roubaix, mais qui sème sur l'ensemble de la métropole. Je pense qu'il y avait donc un terreau qui a permis cette éclosion de cet écosystème. Et naturellement, il a pris sa place dans les pôles d'excellence de la métropole. Donc, vous y avez cru, nous y avons cru, et donc nous y travaillons ensemble, et dans une vraie dynamique de réseau, une vraie dynamique de pôles d'excellence. Et ce qui est sûr, c'est que nous allons évidemment réussir.
Alors, tu parlais de filières d'excellence, donc il y en a 5 aujourd'hui sur la métropole. Les industries culturelles et créatives en sont une. Et le 28 juin dernier, 2024, pas dernier, l'année dernière, le Conseil métropolitain a délibéré pour voter cette nouvelle stratégie, cette nouvelle ambition. Aujourd'hui, on est à peu près un an plus tard. et on célèbre la naissance d'Eura Créative. Donc, cette ambition, elle est majeure, mais quels en sont les grands axes?
Tout d'abord, j'allais dire la volonté de répondre aux mutations actuelles. Il y a bien sûr un vent de modernité qui flotte dans l'environnement, mais à l'ère de l'IA, de l'open data, de la décarbonation, que tous nous recherchons, puisque nous tenons l'objectif de décarbonation en 2050. Et c'est volontariste. Et donc, c'était le premier enjeu, c'était de créer un pôle d'excellence qui, finalement, s'accoutume de ces exigences de mutation. Le deuxième, évidemment, c'est eh bien, de faire en sorte que ce réseau, cet écosystème, se renforce et renforce sa position par le dialogue entre les membres du réseau, mais aussi entre les partenaires. Et donc, évidemment, il ne pouvait y avoir d'empreinte publique sur un réseau comme celui-là. Il fallait que nous associions public-privé, que nous partagions non seulement les enjeux, mais aussi les réussites. Et puis aussi que nous travaillions à faire en sorte que cet écosystème, eh bien, il soit ouvert, il soit avec un ancrage évidemment territorial qui fait la marque de fabrique, mais aussi qui soit dynamique, qui soit à même de supporter la charge des mutations, mais en étant offensif, en étant, lui-même, c'est-à-dire inventif, créatif. Je pense qu'on en est sur le chemin.
Alors, tu évoquais le partenariat public-privé dans cette naissance qui est Eura Créative. Alors, Eura Créative, c'est un groupement d'intérêts publics. Alors, je fais le malin, moi, aujourd'hui, mais il y a un an et demi, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un groupement d'intérêt public. Et on a travaillé ça, et je trouve que le nom en lui-même, groupement, porte beaucoup de valeur. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir créé un GIP, comme on dit?
D'abord, c'est un groupement. Et comme je l'ai dit, nous avions besoin d'une dynamique qui rassemble et qui fait que l'ensemble des partenaires travaillent ensemble. C'est le sens du collectif qui est à l'origine de cette initiative. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu a été de fédérer des partenaires. Aujourd'hui, on est 7 structures engagées dans ce groupement d'intérêt public. Bien sûr, l'Université de Lille, la CATO, l'Université catholique de Lille, les professionnels, je citais évidemment Noramine ou Gamine, et puis Pictanovo qui nous a rejoint, et bien sûr, et ensuite le CITC, donc le Centre des technologies sans contact, et je salue d'ailleurs son directeur qui est général, qui est là, et puis bien sûr la métropole. Mais j'allais dire, nous partîmes à 7.
500 On est à 7 pour l'instant.
7, 7.
Pas 500 encore.
D'un prompt renfort, quand nous arrivons au port, nous fûmes bien plus. Oui, je pense d'ailleurs qu'il y a des structures, les grandes écoles par exemple, devraient être intéressées. D'ailleurs, certaines se sont exprimées et je pense qu'on consolidera encore cette composition. Je pense à Rubica, je pense à Artefix, bien sûr, au Frénois. C'est effectivement, je pense, logique dans les affinités et dans les objectifs. Et puis, nous avons pensé aussi, d'ailleurs, je le propose ce soir, nous avions envie de créer un club des partenaires privés, donc des entreprises, pour que eh bien, les chefs d'entreprise qui veulent apporter de l'énergie et s'impliquer dans ce groupement d'intérêt public, eh bien, puissent le faire. Donc ce partenariat public-privé, et finalement une recette qui peut permettre d'accélérer les décisions, d'être un peu plus offensif, d'être un peu plus puissant. Et je pense que c'est une force.
As-tu un message ou un vœu à formuler pour Eura Créative?
Oui, bien sûr. D'abord, je lui souhaite longue vie et pleine réussite, bien sûr. Vous savez, on est ambitieux, mais il faut savoir l'être. On vise rien de moins que ce qu'on appelle, moi j'appelle ça dans notre jargon, les cinq verticales. Hein, nous avons évidemment le jeu vidéo, nous avons l'image, nous avons la musique, mais aussi le design et la production de spectacles vivants. C'est ambitieux, mais ça nous motive bigrement et j'ai envie de dire, nous avons tout ce qu'il faut en termes d'infrastructure, en termes de puissance publique assumée. Et j'insiste sur cette expression parce que c'est celle de notre président. Et en même temps, ce partenariat public-privé, porteur et de confiance, peut permettre d'avoir un vrai catalyseur et créer des emplois, créer des entreprises. Et c'est ça, finalement, notre réussite commune.
La première partie de ce reportage, de ce son que j'ai pris là-bas à Eura Créative, donc à la pleine image transformée. Et j'aurai l'occasion de vous en diffuser d'autres parties pendant l'été, peut-être avec des contradicteurs d'ailleurs. Si vous voulez contredire, n'hésitez pas à me rendre visite. Voilà pour ce partenariat public-privé qui donnera aux entreprises plus de facilité pour répondre aux appels d'offres et sans doute de bénéficier plus largement de financements publics et privés. Le temps d'une chanson et on se retrouve avec notre invité.
Thank you.
Joy Division sur Radio Campus, Lille. Transmission, c'est le titre donc de cette chanson, un titre choisi par notre invité qui s'appelle Christophe Cellier. Bonjour Christophe.
Bonjour René, comment vas-tu ?
Heureux de vous accueillir, cher ami.
Merci beaucoup.
Alors, j'imagine que la transmission, il va en être question dans cette séquence, puisqu'on va parler donc du campus des métiers et des qualifications images et design des Hauts-de-France. Donc là, il est évidemment question de transmission, peut-être aussi d'innovation.
Exactement, et l'idée c'est qu'on puisse présenter aux auditeurs ce qu'est le campus des métiers et des qualifications d'excellence images et design.
Alors tout à l'heure, on a fait une séquence consacrée aux services privés, on va dire, aux initiatives privées. Là, on est dans le service public.
Oui, clairement. En fait, les campus des métiers et des qualifications ont été mis en place dès 2014 par un décret qui concerne en fait la réforme de la voie professionnelle, qui permet effectivement aux étudiants et aux apprenants du bac pro au doctorat de choisir leur parcours et d'évoluer. Et ça s'adresse aussi bien aux formations initiales qu'aux formations continues. Donc là, on est véritablement sur un spectre très large et un public très important en termes au niveau de la région des Hauts-de-France.
Donc un spectre très large, mais un champ, on va dire, de thématiques assez précis.
Oui, car en fait, il existe 13 campus des métiers et des qualifications dans les Hauts-de-France, chacun en fait attaché à une filière professionnelle, et en l'occurrence, le campus Image et Design s'intéresse aux métiers et aux qualifications de l'image et du design.
Quels sont les lieux d'enseignement où se passe cet enseignement? Quels sont les domaines et peut-être aussi les villes concernées?
Alors initialement, le campus donc, a été créé en 2015 et ne s'appelait pas Campus Image et Design, mais Campus donc Image Numérique et Industrie Culturelle. Et il a changé de nom à l'occasion de l'île capitale du design. Donc il s'est intitulé Campus Image et Design à cette occasion. Donc initialement, on était véritablement sur l'économie de l'image et du numérique qui s'est étendue au design et qui correspond effectivement à un besoin et également en fait une réalité du terrain. Et quand tu parles de localisation de l'activité et des formations, initialement nous étions davantage concentrés sur la métropole lilloise, et notamment Roubaix-Tourcoing. Et après, cette nouvelle appellation, donc Campus Image et Design, le campus s'est étendu à l'entièreté du territoire des Hauts-de-France.
Voilà, donc on va dire, il y a votre base qui est une base, comment on peut dire, d'accompagnement ou de mise en réseau?
Alors pour définir ce qu'est un campus des métiers et des qualifications, c'est avant tout un réseau de membres et de partenaires, que ce soit en fait des établissements de formation, des entreprises, des collectivités, des structures, des associations. Donc tout cet écosystème travaille ensemble pour apporter des idées. Donc l'idée, c'est que les campus des métiers et des qualifications vont être portés par la filière professionnelle. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est-à-dire en fait l'insertion professionnelle des étudiants, des apprenants, assurer en fait la sécurisation des parcours, faire en sorte qu'un étudiant qui entame une formation soit assuré d'un emploi à la fin. C'est formé, mais pour quel métier? Donc on est vraiment sur des questions très prioritaires. Et l'autre axe qui est vraiment très important, c'est l'égalité des chances. Faire en sorte que, quel que soit en fait l'origine des personnes, qu'elles soient sociales ou autres, effectivement qu'elles aient la même chance de formation, la même offre de formation, quel que soit leur niveau de ressources également, car clairement aujourd'hui on est confronté à une grosse problématique de ressources et de précarité. Les campus sont là pour répondre à ces questions d'urgence et travailler avec les partenaires. Chaque campus est associé à un établissement support. En ce qui concerne le campus des métiers images et design, nous sommes associés à l'ESAT. L'ESAT est notre lycée support. Et c'est Madame Vandenberg, qui est la proviseure de l'ESAT, qui est donc la présidente du campus Image et Design.
Quand on veut préparer des élèves, des étudiants, des métiers, hein, en l'occurrence, là aussi, on a une partie, évidemment, en formation générale, qui permet aussi d'évoluer par la suite, de se raccrocher peut-être à d'autres branches. Comment on peut prévoir d'intégrer des étudiants à la fin d'un cursus d'études et qui puissent après suivre, on va dire, au travers de sa carrière professionnelle, des évolutions liées à la société.
Alors, là, en fait, on entre dans une dimension qui est récente, mais qui a été abordée par le ministère de l'Éducation et de la Recherche, qui est notre ministère de référence. L'idée, c'est de colorer les formations existantes. C'est-à-dire, la coloration, c'est quoi ? C'est quand il y a une demande précise des entreprises ou d'un secteur d'activité, il s'agit de faire évoluer les formations dans le sens, effectivement, des urgences, et notamment qu'elles soient dans la réduction de la fracture numérique ou dans de nouveaux process de production, de compréhension de l'industrie. Là, récemment, en fait, la région nous a fait part de sa volonté de réindustrialisation, donc développer l'attractivité des métiers de l'industrie auprès des jeunes, et l'image et le design pourraient devenir des leviers intéressants pour, justement, transformer non seulement la vision de l'industrie, mais aussi rendre l'industrie plus accessible, ou en tout cas rompre avec un imaginaire qui peut paraître associé à la pénibilité du travail. Donc faire en sorte que le design et l'image puissent non seulement être des vecteurs de communication, mais aussi des vecteurs de transformation. Donc là, on est dans un système de pensée différent. Auparavant, on ne parlait que d'image, mais là, en fait, on parle de design, ce qui veut dire, en fait, des process et une manière de penser autrement.
Alors, j'ai eu l'occasion de faire un grand reportage au campus des métiers du bâtiment public, et c'est à Bruay-la-Bussière que se trouve ce campus.
Avec Ingrid.
Alors, j'ai passé un moment assez extraordinaire à découvrir des métiers, franchement, je ne les connaissais pas trop avant, et voir l'implication, évidemment, des personnes qui travaillent dans ce lieu, et aussi les entreprises qui étaient à la recherche. Il y a des métiers en tension dans le BTP.
Oui.
Est-ce que vous ressentez dans votre domaine des métiers en tension ? Est-ce que vous y faites face ? Est-ce que vous y préparez justement ces élèves pour les besoins qui vous seraient signalés ? Est-ce qu'il y a des besoins bien identifiés ?
Je vais prendre un exemple très concret qui se trouve au lycée Giraud-Sagné Saint-Martin-Boulogne. Donc c'est juste à côté de Boulogne, c'est dans l'agglomération de Boulogne. Ce lycée en fait propose une formation MP3D, donc qui, comment dire, forme des professionnels de l'impression 3D. Et juste à côté de cette formation, dans le lycée même, il y a une formation tourneur-fraiseur. La formation tourneur-fraiseur, donc, ben, c'est lié à un métier en tension. Et effectivement, les étudiants boudent un peu cette formation, car en fait, elle est connotée industrie. Et l'idée, c'est qu'avec l'équipe du lycée Giraud-Sagné, nous allons travailler à rendre plus attractive cette formation en l'associant avec l'impression 3D et également des technologies de frittage, ce qui en fait appelle des manipulations de machines numériques, qui rend en fait le métier différent en termes de perception, mais identique par rapport à l'exigence des professionnels. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler l'image de la formation, les contenus de la formation, tout en respectant en fait les compétences et en développant les compétences.
On parle beaucoup actuellement de perte de savoir-faire, des savoirs qui disparaissent, qui vont à l'étranger, etc. Et après, quand on en a besoin en France, on ne les retrouve pas. Est-ce que justement, le fait d'aller toujours de l'avant vers des nouvelles technologies, par exemple, ça ne nous fait pas oublier un peu des métiers qui sont encore utiles, qui risquent un peu de disparaître ?
Alors oui, on pourrait faire ce constat où l'intelligence artificielle tendrait en fait à remplacer l'intelligence de la main. C'est-à-dire que finalement, le contact avec la matière se fait de plus en plus distant, les machines s'interposent en fait entre l'opérateur et le résultat final, et même parfois il n'y a pas d'humain du tout, et le process se fait sans humain, de A à Z. On n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le besoin d'un contact avec la matière, ne serait-ce que pour la manipuler, pour comprendre ses limites, pour comprendre ses potentialités. Et il faut du temps pour ça. À savoir que les savoir-faire, ce ne sont pas des choses qu'on peut valider en fait en un temps record. Il faut vraiment plusieurs années avant effectivement d'acquérir une compétence. Là, je ne parle pas d'artisanat, mais je parle de design. Et cette compétence, elle se fait par une approche pragmatique et pratique. Et cette dimension pratique ne peut pas être exclue. Et c'est pour cette raison que le tout numérique ne peut pas être envisagé totalement.
J'ai eu l'occasion d'aller visiter la cité de la dentelle et de la mode à Calais. Hein. Et là, il y a des machines assez étonnantes hein, qui datent du 19e siècle, anglaises peut-être pour la plupart.
Les machines Leavers.
Ouais, qui produisaient de la dentelle industrielle, on va dire. Hein. Et donc, ces machines, elles sont toujours là, bien entretenues. Il y a très peu de gens qui sont formés actuellement pour les faire fonctionner. Il n'y a que 2 personnes en apprentissage en ce moment. Et pour en avoir discuté un petit peu avec le directeur de S-Mode il n'y a pas longtemps, effectivement, lui, il disait, 2, c'est mieux que pas du tout. Mais voilà, donc c'est vrai que souvent ces métiers sont liés à des économies, du business, on va dire. Comment on trouve le ratio entre le business qui permet de faire de la valeur ajoutée ou de vendre et de peut-être redistribuer, ruisseler, et l'approche purement, alors, je ne vais pas dire intellectuelle, mais de formation large en culture qui permet d'évoluer par la suite, quel que soit le métier qu'on fait, et dont on pourra peut-être changer si le besoin s'en fait sentir.
Alors, là je rebondis sur la fin de ton intervention concernant les reconversions. Il y a plusieurs types de reconversions, notamment dans le domaine des ICC. Là, en fait, en parlant des métiers dont l'activité est associée à l'industrie et également en fait à la pénibilité, on a les maladies du travail qui sont liées en fait à l'usure physique des personnes qui travaillent sur ces machines et qui à un moment donné en fait vont chercher une reconversion parce qu'en fait physiquement elles ne sont plus en capacité d'assurer ces gestes. Ce qui est vrai notamment pour l'artisanat, ce qui est vrai pour des métiers où il faut porter des charges. Donc là, on est véritablement sur des questions de reconversion liées à cette pénibilité. Le campus Image et Design propose à présent une réflexion sur les 40-64 ans, à savoir les personnes qui sont en situation de reconversion et de trouver d'une manière intelligente comment capitaliser sur les compétences qu'ils ont pu développer. Donc, ne pas perdre en fait les acquis en fait et trouver en fait des pistes pour la reconversion. Ensuite, par rapport à ce que tu dis sur les métiers leavers, c'est le fait qu'il y ait peu de personnes qui reprennent le flambeau parce qu'en fait la demande est faible. Hein, il faut aussi le reconnaître et la concurrence est forte du côté des pays d'Asie du Sud-Est où la production est très très importante. L'idée est là, c'est qu'en fait on est sur un marché globalisé et mondialisé et quand tu parlais de marché c'est une économie mondiale en fait en réalité. Par contre on peut parler de réussite locale et auquel cas on peut penser à des scopes qui seraient en fait quelque part des alternatives possibles pour des activités de niche. On sait très bien que la dentelle de Caudry ou de Calais, ce sont des dentelles associées au luxe. Généralement, en fait, on les voit apparaître, je pense au Met Gala, qui a lieu chaque année au musée new-yorkais très connu, qui va effectivement faire une démonstration d'un savoir-faire de la mode et notamment des matériaux, des textiles relativement luxueux, comme la dentelle, pourquoi pas, qui serait en fait une forme de vitrine. Mais on sait très bien que ça ne concerne qu'une dimension très, très spécifique, ouais, très pointue. Par contre, je reviens sur l'idée de la reconversion. Cette reconversion, donc, je disais qu'elle était en fait associée d'une part à des problèmes de physique, mais il y a également un autre phénomène qui est tout à fait récent et qu'on a pu envisager avec le RTN, c'est le réseau thématique national des ICC qui rassemble tous les campus image et design en France, on est 13 en tout, c'est qu'à la fin de 35 ans, les personnes se trouvent être un peu poussées à la porte des agences et des studios par le fait justement d'un problème générationnel, donc clairement, d'autre part pour un problème de compétences et d'actualisation des compétences, d'usure, de fatigue. Et ces 35-64 ans, il faut vraiment leur trouver quelque chose afin de poursuivre une carrière. Certaines écoles proposent à leurs alumni, donc en fait leurs anciens, de revenir en formation continue pour être actualisés en termes de compétences, mais pas forcément dans les métiers pour lesquels ils avaient été formés initialement, mais voire sur des métiers de marketing, de commerciaux, ce qui leur permet de rester en fait dans le domaine tout en ayant en fait une autre pratique, en tout cas de ses activités.
Voilà, et peut-être aussi de créateur d'entreprise.
Exactement. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse penser à une seconde vie en termes de carrière, et on sait qu'aujourd'hui, une carrière n'est pas unique, elle va être multiple. Et c'est aussi le message que le campus souhaite faire passer, c'est que pour les jeunes qui commencent une formation, il faut s'attendre qu'il y aura plusieurs carrières, différents métiers, peut-être dans le même domaine ou dans différents domaines.
Alors actuellement, on pense à des évolutions quant à la durée du travail en termes d'années. Hein. On est arrivé, je ne sais plus, à 64 là.
Pour l'instant.
Pour l'instant, mais en évolution. J'ai quand même lu les statistiques liées, par exemple, aux soudeurs. Quand on est soudeur, la moyenne de décès, de l'âge de décès, c'est 60-65 ans.
Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, la nature même du travail va influencer, notre manière de vivre et aussi notre espérance de vie.
Alors justement, pour ces métiers difficiles, qui devraient sans doute être mieux payés déjà, hein, parce qu'ils sont en tension, on comprend quand même pourquoi, puis il y a aussi cette échéance peut-être des accidents ou des maladies professionnelles. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au bout de 10 ans, 15 ans, on ne puisse pas proposer à ces personnes qui ont eu des métiers durs physiquement d'apprendre d'autres métiers par rapport à ces métiers du design, etc. Ils pourraient trouver une nouvelle énergie.
Clairement, et je pense que là, on est arrivé en fait à un seuil où il faut penser en termes de mutualisation des compétences, mais aussi de transversalité. C'est-à-dire qu'en fait, sur quel terrain en fait, on va travailler pour que des personnes issues du bâtiment, que tu citais tout à l'heure, puissent s'intéresser en fait à la partie design. En ce moment, en fait, le campus Image Design développe un projet avec l'AMI CMA qui a été initié par l'ENSI des ateliers, et c'est un projet autour du BIM. Le BIM, c'est la modélisation numérique des bâtiments, et on pourrait tout à fait imaginer quelqu'un qui a fait une carrière dans le bâtiment associer en fait ses compétences et s'initier en fait à ces techniques numériques pour pouvoir justement poursuivre dans le bâtiment, mais autrement. Et ça, ce serait effectivement très intéressant de le mettre en place.
Voilà, donc on va dire que ta mission est large, elle est étendue aussi géographiquement, enfin à l'échelle du territoire régional, il me semble, hein, et vous êtes en lien fort avec le rectorat de Lille.
Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que chaque directeur opérationnel, nous sommes sous une double gouvernance, quelque part. Nous avons comme employeur la région académique qui se situe à Lille, mais qui couvre à la fois l'Académie de Lille et d'Amiens. Donc on est sur le versant nord et le versant sud. Et l'autre gouvernance, c'est la région des Hauts-de-France. C'est-à-dire que nous travaillons avec cette région pour justement développer et proposer des innovations en termes de formation et suivre également ce qu'on appelle la stratégie régionale qui est développée par rapport aux SRESRI et qui est présentée chaque année, ainsi que le COSTRA qui est en fait initié par notre rectrice. Le COSTRA, c'est le comité de stratégique qui définit en fait nos axes prioritaires.
Est-ce qu'il y a des projets qui sont fixés à 5 ans, par exemple ?
Alors oui, nous, on nous demande tous les 4-5 ans de relabelliser le campus. C'est-à-dire qu'en fait, un campus, ce n'est pas une structure qui est éternelle. Il faut qu'elle soit validée, il faut qu'elle soit relabellisée. Et c'est tout un parcours qui permet effectivement de poser les axes thématiques, donc les axes forts qui sont posés sur 4 ou 5 ans. Donc là, je peux déjà en fait vous évoquer quelques axes qui seraient en fait éclairants par rapport aux priorités du campus. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on va déposer pour la période 2025-2030. La première question, c'était de comprendre l'évolution des ICC. C'est-à-dire qu'en 2016, Aurélie Filippetti, en fait, qui était ministre de la Culture, avait commandité une étude pour justement connaître l'impact des ICC au niveau en fait, de l'économie française. Et il s'avère qu'on était à 4 points du PIB, donc c'était quand même relativement conséquent.
Donc on va dire ICC, industrie culturelle et créative.
Voilà, autant pour moi. Ensuite, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une grande commission qui réunissait en fait trois ministères, le ministère de l'Éducation et de la Recherche, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie. C'était en 2019, c'était les Assises du Design. Et donc, à ce moment-là, s'est posée la question de l'impact du design dans la société et dans les industries. Donc, il y avait un plan ambitieux qui réunissait à la fois le côté industriel, le côté culturel et le côté formation. Et de cela, en fait, est née donc la PCI, donc l'Association pour la création industrielle, qui a permis de définir les contours, en tout cas d'une politique nationale, et qui permettait effectivement d'y voir d'une façon plus claire sur les enjeux du design en France. Alors, il faut savoir que le design en France, c'est une chose toute récente. C'est grâce en fait au Centre Pompidou que le design a été diffusé en France en termes de culture. Et auparavant, en fait, on ne parlait pas de design, on parlait d'esthétique industrielle, ce qui nous a un petit peu causé quelques torts, et notamment sur la compréhension de ce qu'était le design. Souvent, en fait, quand on demande à une personne dans la rue, on lui dit bah, « qu'est-ce que c'est pour vous le design ?» Elle nous répond que c'est un style. Or, le design n'est pas un style, c'est une méthode, c'est un système de pensée, c'est tout un process. Et donc là, en fait, clairement, notre mission, c'est à la fois du réseau, donc fédérer des entreprises, des structures de formation et des partenaires. Mais nous avons également une mission qui consiste à clarifier ce qu'est l'image et le design. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les axes thématiques, le premier axe, c'était par rapport à l'image. Aujourd'hui, on assiste à une offre qui est supérieure à la demande, à un nombre exponentiel de plateformes qui nous proposent en fait des contenus très variés. En fait, on a l'embarras du choix et clairement, en fait, une vie ne suffirait pas pour absorber toutes ces informations. Et ce qui se produit, c'est une fragmentation de l'audience, c'est-à-dire que les personnes vont choisir par silo, donc par rapport à leurs affinités, par rapport en fait à leur communauté, et on assiste à une fragmentation de l'audience qui va rendre beaucoup plus compliqué la projection de recettes, à savoir que finalement, les personnes qui s'en sortent le mieux, eh bien, ce sont les grandes plateformes qui vont être des prestataires de services et qui vont créer en fait des formes d'abonnement, qu'on connaît bien, et qui vont être la ressource essentielle finalement de cette économie, mais qui est très peu redistribuée auprès des auteurs. Et au niveau international, on a un gros problème en termes de droits d'auteur. En France, nous sommes une exception en fait dans le monde, parce qu'en fait, on est quand même très, comment dire, on a à cœur de vouloir redistribuer d'une façon équitable, en tout cas, les dividendes. Et par contre, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc, on a une exception culturelle en France, et en France, on est les seuls à utiliser l'expression « industrie culturelle et créative ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'étranger, on parle d'industrie créative, tout simplement. Et la culture n'est pas citée, en tout cas, n'est pas un élément déterminant. Donc ça, c'est intéressant à questionner, et nous avons en fait une singularité à mettre en avant, et il faut nous appuyer sur cette singularité, donc cette valeur culturelle, pour justement ne pas la défendre uniquement sous une forme marchande, mais également sous une forme, comment dire, de partage, de transmission des savoirs.
De patrimoine, d'ailleurs.
Exactement.
Voilà, donc on comprend l'étendue et la richesse de ce projet, donc pour les 5 prochaines années, si j'ai bien compris. Qui intègre ce projet en cours de route là ? Est-ce que vous avez des ressources nouvelles de gens qui disent bah, « moi j'aimerais bien, maintenant que le projet se redéfinit, ça m'intéresse peut-être davantage qu'avant » ou que un autre dans lequel j'avais pensé m'intégrer ?
En réalité, le campus Image et Design, tel qu'il est défini depuis mon arrivée, en fait, parce que finalement j'ai pris mon poste en janvier 2024, hein, c'est tout récent, la première étape c'était l'observation, ce qui semble naturel, et après avoir observé, rencontré les différents acteurs, parcouru le territoire, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient déjà engagées dans des actions. C'est-à-dire qu'en fait, le campus n'est pas là pour réinventer les choses. Hein. Il faut en fait identifier déjà ce qui existe. Et ça, c'est déjà pas mal comme travail. Donc si une structure est engagée dans un domaine ou dans un autre campus, voire dans un autre dispositif, il n'y a aucune impossibilité à ce qu'ils rejoignent le campus Image & Design. À savoir que si ces personnes souhaitent nous rejoindre, c'est volontiers qu'on les accueille. Et on n'est pas du tout sur l'exclusivité d'un partenariat.
Voilà, donc votre campus qui s'adapte aussi à de nouvelles opportunités ou pas ?
Alors, de nouvelles opportunités, oui. L'une de celles dont je souhaiterais parler aujourd'hui, c'est une opportunité qui s'est créée par la rencontre. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout prédéfinir à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des schémas directeurs, mais clairement, c'est la rencontre qui est déterminante. Alors moi, je dois cette rencontre à Perrine Puip, qui est donc la responsable du bureau des entreprises du lycée Giraud-Sagnier que j'ai cité tout à l'heure. Et nous allons développer un projet d'exosquelette cinétique qui va associer en fait à la fois des éléments technologiques, mais également de danse. Puisqu'en fait, dans ce lycée, on a une option art et danse. Et c'est au cours des discussions qu'on a pu échanger et on s'est rendu compte que la technologie pouvait tout à fait se marier à un projet d'ambition culturelle et créative. Et en l'occurrence, le technologique s'efface par rapport en fait aux besoins de la chorégraphe. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir qu'une discussion qui dure 10 minutes, 15 minutes, peut changer complètement en fait un regard, une projection.
C'est vrai que les exosquelettes, on les voit dans beaucoup de domaines. J'ai pu rencontrer ça au Salon de l'agriculture à côté d'Arras, là, et des gens, enfin une société qui propose des exosquelettes aux personnes qui traient les vaches, par exemple. Et puis il y a Exotech aussi dans la région lilloise, hein, qui produit des prolongements du corps pour aider des personnes en difficulté. Et donc, on sent les besoins. Et peut-être, par rapport à des métiers pénibles aussi, aider ces gens à pouvoir travailler plus longtemps, mais à se sentir mieux au travail, déjà.
En fait, ce projet d'exosquelette cinétique est lié au fait de développer l'agilité. Développer l'agilité du danseur ou de la danseuse. Et on est sur un projet de performance créative. Oui.
Alors c'est vrai que c'est d'où l'intérêt de culture et design. C'est là on a cette dimension culturelle qui est aussi une forme de partage avec des gens, peut-être plus facile, sinon différente que celle avec des technologistes.
En réalité, récemment, j'étais donc au syndicat UIMM, UDI Metal, qui regroupe en fait les industries du métal dans les Hauts-de-France. Et ils ont deux sièges, un à Amiens et l'autre à Hénin-Beaumont. Et ce sont des personnes qui, a priori, n'ont pas de rapport direct avec le monde de la culture et de la création, mais en réalité, on s'aperçoit que si. C'est-à-dire que le design industriel a pour vocation justement de développer la créativité, mais autrement que ce à quoi on était habitué.